Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Torvieille de La Broue et vous écoutez les Summer Sessions du Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et tout l'été, même au mois d'août. On vous embarque avec nous eh bien, sur le bord de la plage pour parler social media. Et ce matin, eh bien, comme tous les matins, je suis avec Adjane Chélil.
Ouais, c'est vrai qu'on s'est un peu fait, des vacances ensemble, hein, Thibaut. Ouais. On a fait tout l'été le tour des plages de la France.
Et je vois
c'était un plaisir.
Je vois que ton bronzage néon commence vraiment à porter ses fruits.
Là, ça paye. Là, je sens que ça paye. Moi, je m'enduis d'huile d'olive tous les matins là, avant de faire le podcast, histoire d'être vraiment frais. Quoi.
Les amis, on espère que vous passez un très très beau mois d'août. On est ravis de rester avec vous, y compris cet été, avec du coup une revue social media. Oui, tu me fais signe.
Oui, j'allais juste dire, je voulais vous le dire tout de suite maintenant, dès le début de l'épisode, si vous êtes en vacances, envoyez-nous vos photos de vacances par message privé. Si vous l'êtes encore, n'hésitez pas.
On en a besoin. Envoyez-nous vos photos, la mer, la montagne, là où vous êtes. On veut voir où est-ce que vous nous écoutez. Allez, c'est parti pour la revue social media de la semaine. Tiens, je me propose de commencer à Jeanne,
allez,
si
vas-y.
Ça te va.
Je laisse la main.
Avec une très bonne nouvelle, je trouve, les stories Facebook qui sont en progression notable. On a des chiffres qui viennent de tomber. C'est très, très cool. Concrètement, il y a une constatation qui est celle d'une ascension constante au cours de la dernière année de ces stories. On s'est posé beaucoup de questions au cours de l'année du format story sur Facebook. Sur Instagram, c'est une certitude, c'est validé. Mais sur Facebook, on n'en était pas bien sûr.
Ouais, on s'est longtemps demandé quelle utilité on allait pouvoir en faire. On voyait bien que c'était un outil qui avait été créé, qui était encore très peu utilisé. Je parle même pas forcément des marques, mais par les utilisateurs eux-mêmes, avec très peu de stories partagées. Et du coup, avec pas beaucoup de stickers qu'on peut rajouter pour créer de l'interaction. Donc, on se demandait vraiment où ça allait.
Eh bien, donc, je disais, bonne nouvelle. Cette semaine, la société de services financiers Cowen a publié, à propos de Facebook, une note d'analyse. C'est un truc qu'ils font assez fréquemment. C'est en gros une prévision des résultats du deuxième trimestre. Vous le savez, Facebook est coté en bourse. Donc, du coup, ils sont suivis de très, très près par les analystes financiers. Et cette note, elle inclut notamment les derniers résultats liés aux usages, c'est-à-dire à la manière dont les gens utilisent les plateformes du groupe Facebook, hein, Facebook et Instagram. Et là-dessus, ils ont constaté une nette hausse pour Facebook Stories au cours de la dernière année. Quelques chiffres pour être très précis. L'utilisation des Facebook Stories a augmenté au deuxième trimestre de 2019 par rapport aux trois premiers mois de l'année. Donc, on est dans une vraie trend ascendante. Ce qui est intéressant, c'est que sur toute tranche d'âge confondue, on passe de 33% à 36% quand même de taux d'utilisation. Et chez les 18-24, on est passé de 40% à 44%. Et chez les personnes un petit peu plus âgées, c'est une tranche de 55 à 64, on est passé de 24% à 30%. Donc, on voit que les choses sont en train de rentrer.
Ouais, ça progresse petit à petit. On sent que ça rentre un peu dans les habitudes et dans les, dans les mœurs culturelles des utilisateurs Facebook.
Voilà, donc si ça se confirmait, ça serait effectivement une aubaine pour Facebook à deux niveaux. Et la première, c'est que ça aiderait sans doute à rajeunir son application et à garder leurs utilisateurs plus longtemps sur la plateforme. On sait que c'est une grosse problématique aujourd'hui pour Facebook. Et puis le deuxième, évidemment, c'est de laisser des espaces additionnels en publicitaire dans les stories Facebook.
Ouais, exact. En tout cas, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle que ça se renouvelle un peu Facebook et que là, le renouvellement a l'air de fonctionner, de commencer à fonctionner. Moi, je vais vous parler réseau social de niche là aujourd'hui avec, peut-être vous avez jamais entendu parler, mais l'Electronic Music Factory. Donc, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est une plateforme en ligne créée par la SACEM. Donc, la SACEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est eux qui payent les droits d'auteur aux artistes, tout simplement. Par exemple, si vous avez un restaurant et que vous voulez passer de la musique à l'intérieur, vous allez devoir payer des droits SACEM pour pouvoir passer cette musique à l'intérieur. Et c'est comme ça, après, que la SACEM peut payer les artistes. Et en fait, donc, tout vient de 2016, où la SACEM lance une grande enquête et se rend compte, sur les résultats de cette enquête, de l'impact de la culture de la musique électronique en France. Et du coup, décide de réfléchir à comment accompagner le mieux possible les acteurs de ce milieu-là culturel. Et en 2017, il lance une plateforme en ligne qui se transforme petit à petit en réseau social, en fait, et qui a pour but d'aider les artistes dans leur activité de management ou de création de projets électroniques. Et ça s'appelle donc Electronic Music Factory, EMF. La plateforme s'est associée avec le célèbre magazine de musique Trax. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais Trax, c'est un magazine qui parle principalement de musique électronique et qui est vraiment très connu en France, mais aussi un peu en Europe, pour la création de contenus originaux sur cette plateforme. Et en fait, tout simplement, le magazine continue sa collaboration avec la SACEM en animant carrément ce média social. La plateforme en ligne, elle réunit les artistes, les labels, les éditeurs, les bookers, les clubs, les différents festivals. Donc, tous les acteurs du milieu culturel sont réunis sur la plateforme et peuvent échanger sur cette plateforme. Donc, c'est clairement un réseau social de niche. Et je voulais vous en parler parce que je trouve ça super intéressant de la part de la SACEM de carrément se lancer là-dedans. Et ça peut être une solution dans certains secteurs, dans certains milieux où ça fait penser un peu, on a beaucoup parlé souvent de communication B2B et de savoir comment c'était possible de réaliser du B2B. Bah, là, la SACEM, elle a été innovante, elle a carrément créé sa plateforme à elle avec tous les acteurs d'un milieu et un endroit qui les réunit tous et où ils peuvent échanger, où c'est beaucoup plus simple.
En gros, c'est le LinkedIn de la musique électronique.
Exactement.
Voilà, comme quoi, ils auraient pu faire ça sur LinkedIn, hein. C'est cool LinkedIn. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est cool LinkedIn, mais je pense que ça manquait de drogue pour la musique électronique.
C'est peut-être ça. Allez, autre sujet, rien à voir. Là, j'ai quand même deux sujets aujourd'hui, tu vois, pour toi, assez féministes. En tout cas, le premier, Barbie. Je vais te parler de Barbie. Alors, oui. Accroche-toi bien. Toi, tu n'es pas encore papa. Moi, je le suis. Et forcément, Barbie fait un peu partie de ma vie aussi. Et il faut savoir que cette année, Barbie fête ses 60 ans. Voilà, vous avez peut-être vu des choses à ce sujet. Et initialement, Barbie, c'est cette poupée parfaitement blonde avec des proportions corporelles complètement irréalistes. Et la marque a d'ailleurs été souvent critiquée au sujet des attentes déplacées et irréalisables qu'elle suscitait ou qu'elle créait chez les jeunes filles. Ça, c'est derrière elle. La marque a réagi. Et Barbie, notamment, et je trouve que ça, c'est assez fou, s'est associée à l'Agence spatiale européenne pour un projet qui s'appelle le projet Dream Gap. Je trouve ce projet fascinant. L'objectif, c'est d'inciter les filles à devenir la prochaine génération d'astronautes, d'ingénieurs et de scientifiques de l'espace. C'est très très cool. Le directeur européen du marketing de Barbie, qui s'appelle Isabelle Ferrer, elle a déclaré: nous avons réalisé qu'il n'y avait qu'une seule femme astronaute active en Europe. Ça, je ne savais pas. Tu vois, c'est quand même dingue. Et à ce titre, elle dit, selon elle, que maintenant, 50 ans après le débarquement de l'homme avec un H majuscule sur la Lune, seulement 15% des astronautes actifs sont des femmes. Et ça montre qu'il y a un vrai problème de genre. Et ce problème de genre, il remonte à l'enfance. Et elle estime que la marque Barbie, elle a sa part de responsabilité. Et donc, dans le cadre de ce projet, Barbie a décidé de s'associer avec l'Agence spatiale européenne pour créer une Barbie à l'image de Samantha Cristoforetti, qui est la seule femme astronaute active en Europe. Je trouve ça très cool.
Ouais, c'est super cool. Après, c'est bien de leur part de se rendre compte qu'effectivement, faire des Barbies qui font que à manger ou le ménage ou des choses comme ça, effectivement, c'est pas très constructif dans les combats féministes et dans l'égalité homme-femme et dans l'idée de dire aux petites filles, en fait, tu peux être ce que tu as envie d'être, il n'y a pas de limite. C'est bien qu'ils se réveillent un petit peu. Après, si c'est juste faire une Barbie
qui est astronaute,
garder toutes les autres qui... Alors, j'attends d'avoir la...
Justement pas, parce que la marque s'est engagée à développer chaque année au moins 10 modèles de Barbie qu'ils appellent des Barbie role models, donc
cool.
qui sont vraiment basés sur des stéréotypes positifs, on va dire. Alors notamment, je t'invite d'ailleurs à aller voir l'Instagram de Barbie, @Barbie, qui est ultra cool. Je ne connaissais pas, je suis tombé dessus. Il ne faudrait pas que ma petite fille tombe sur ce compte Instagram, parce que c'est vraiment bien fait. Et notamment, tu as des Barbies dentistes, des Barbies chercheuses, des Barbies journalistes, des Barbies pilotes d'avion. C'est vraiment cool. Il y a pas mal de contenu à aller voir. Allez jeter un coup d'œil @Barbie sur Instagram. Faites-vous votre propre idée, mais je trouve en tout cas que les choses vont dans le bon sens.
Oui, ça c'est sûr que c'est bien, effectivement, s'il y a d'autres métiers qui sont mis en avant et d'autres choses, c'est sûr que ça va dans le positif. Après, quand même, il faut le rappeler, de nombreuses années à surfer sur un modèle culturel qui était un petit peu dépassé.
C'était il y a 60 ans, la création de Barbie.
Voilà. Moi, je vais vous parler maintenant d'un nouveau réseau social au Vietnam. On a parlé pendant l'été, là, ces dernières semaines, des monopoles que certains géants du numérique avaient acquis dans le monde et qui commençaient même à être un petit peu concurrencés par des entreprises chinoises. Et bah, dans certains pays, on veut monter ses propres plateformes sociales nationales pour venir concurrencer Facebook, par exemple. C'est le cas au Vietnam, un pays communiste, hein, donc qui avait quand même une forte propension à vouloir réaliser ça, avec un réseau qui s'appelle Gabo. Son lancement a eu lieu, je crois, mi-juillet, quelque chose comme ça. Et ça a été un tel succès que le nombre de demandes d'inscription a fait bugger la plateforme. Donc certains n'ont jamais pu s'inscrire, d'autres ne pouvaient pas utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc les bugs sont petit à petit réparés. Et la nouvelle plateforme veut atteindre les 20 millions d'utilisateurs d'ici 2021. Donc, c'est un bel objectif pour vous rendre compte un petit peu. Le Vietnam, c'est un pays de 95 millions d'habitants et Facebook, eux, revendiquent 53 millions d'utilisateurs au Vietnam. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'aller concurrencer ces plateformes internationales. Il y a une question qui va se poser quand même pour Facebook et pour les autres géants du numérique qui sont présents aussi là-bas au Vietnam, par exemple, c'est Google et YouTube. C'est une question un peu éthique parce que le pays, le Vietnam, a voté une loi sur la cybersécurité qui oblige ces plateformes à supprimer tous les commentaires considérés par l'État comme une menace à la sécurité nationale. Donc, en gros, l'État veut faire de l'interventionnisme sur ces plateformes-là.
Et là, c'est une plateforme étatique, là, c'est une plateforme sociale qui a été créée par l'État ou pas ?
Non, c'est une plateforme qui n'est pas créée directement par l'État, mais qui est clairement pilotée et financée, je pense, par l'État communiste du Vietnam. Il y a une question d'éthique du coup sur la liberté d'expression qui va se poser. On sait qu'il y a déjà aussi un autre réseau là dont j'ai oublié le nom, qui vient concurrencer déjà WhatsApp, qui est très utilisé dans le pays. Il faut savoir que Facebook, c'était une plateforme qui était très utilisée par les dissidents justement du gouvernement. Donc là, on se rend compte que dans certains pays, les plateformes sociales, elles ont un vrai rôle politique et on l'avait déjà vu un peu pendant la révolution arabe. Mais là, il y a la volonté de créer d'autres réseaux, d'autres plateformes qui vont venir concurrencer celles-là. Alors, c'est toujours difficile de se positionner par rapport à tout ça parce qu'entre Facebook qui a une espèce de domination mondiale et sans concurrence qui du coup parfois l'amène à faire des choses sur la... par exemple sur la vie privée des utilisateurs qui n'est pas très cool, et en même temps de l'autre côté des plateformes qui sont utilisées en fait comme des outils un peu étatiques, on ne sait pas trop de quel côté pencher.
Affaire à suivre.
On va suivre ça.
On retrouve des choses similaires en Chine, hein. Remarque, hein, tu sais, les réseaux sociaux chinois, ils ne sont quand même pas très loin non plus de l'État chinois. Hein, tu parlais de réseaux sociaux de niche, eh bien, on va plonger dans une autre niche, et celle-ci, elle est peut-être aussi peu glorieuse, parce que c'est, écoute, tu sais que quand ta marque, elle évolue dans une niche hein, qui est vraiment réglementée ou un peu complexe, eh bien, il arrive que l'influence marketing, ça soit le seul levier de notoriété que tu puisses actionner en social media. C'est notamment le cas, par exemple, en pharmaceutique, dans des sujets comme la chirurgie esthétique, la cigarette, hein, tout ce qui a trait au tabac, etc. Et aussi, attention, les armes. Eh oui, les armes. Et là, aujourd'hui, je vous propose une plongée chez les frics. Hein, on va aller chez les gun influenceurs. Je suis tombé sur cette espèce de microcosme hallucinant. Je vais essayer de juste vous en dire deux mots, puis vous irez chercher par vous-même. Ça se passe évidemment aux États-Unis, et là il y a de nombreux influenceurs et plus particulièrement des influenceuses qui sont payées afin de poser de façon plus ou moins sexy avec des armes à feu à la main ou lors de séances de tir. Quelques exemples, hein. je vous en cite une d'instagrammeuse qui s'appelle Lauren Young. C'est vraiment la référence, hein, le must de la gun influenceuse. Elle a à peu près 190 000 abonnés hein, sur son compte Insta. Et elle pose avec des armes à feu. Mais alors attention, hein, pas des petites, hein, pas du micro flingue, non, des trucs énormes, genre mitrailleuse, fusil d'assaut, limite bazooka. Et tout ça avec un super joli sourire d'américaine bien propre sur elle, des tenues plutôt sexy. En tout cas, des choses qui font vendre. Et il y en a pas mal, il y en a plein. Hein. Il y a celle-ci, on pourrait parler aussi de Julie Golo, on pourrait parler de Lena Misulek. Il y en a un paquet, on va dire qu'elles sont une petite centaine. Mais pourquoi ? Bah, c'est la grosse question. Bah, pourquoi ? Parce que Facebook et par extension Instagram, eh bien, interdit aux armuriers, aux marques de guns, hein, de diffuser des annonces faisant la promotion de la vente ou même l'utilisation d'armes à feu. Et là-dessus, donc, forcément, l'influence marketing, c'est un levier. Il faut savoir aussi, hein, que la définition d'une arme à feu ou d'une arme tout court, eh ben, elle est large. Pour Facebook, oui, c'est ultra large et ça n'est pas seulement les armes à feu, ça va être aussi les pistolets de paintball, le gaz poivré, les couteaux non culinaires, attention, hein, je précise, c'est comme ça que c'est dit dans les UGC de Facebook, les tasers, les matraques, etc., etc. Et donc, eux, les gun influenceurs, ils permettent quelque chose, ils permettent à ces entreprises, à ces marques d'être visibles et surtout, et peut-être, de rendre les armes à feu lifestyle. Et c'est ça qui est un peu flippant.
Ouais, c'est surtout ça qui est chelou un peu dans tout ça, c'est que d'habitude, nous, on associe les armes à feu à la guerre, à des zones de combat ou alors à des morts ou des choses comme ça. Et là, en fait, moi, j'avais lu un truc là-dessus, justement, où il parlait de vidéos YouTube où, effectivement, bah, disons clairement, il y a des filles à moitié à poil ou en sous-vêtements et des fois même, voilà, juste string, soutien-gorge avec des énormes guns dans les mains qui tirent sur des boîtes de conserve ou des cibles ou des choses comme ça. Et en fait, ils essayent de rendre tout simplement l'utilisation des armes sexy.
Attention, là, je parle d'un truc plus subtil.
Ouais.
C'est pas que le sexy, c'est le lifestyle. C'est-à-dire que là, ces jeunes filles, elles sont pas non plus en lingerie et
d'accord,
tout.
Okay.
Elles sont juste habillées joliment, quoi, comme des jolies américaines de la ferme d'à côté, si tu veux, du ranch d'à côté, plutôt, hein, parce qu'on est quand même bien chez les freaks texans, là. Et l'idée, c'est de rendre aussi attrayant que tous les autres sujets Instagram. Et là-dessus, ben, par exemple, hein, tu vois, les Instagrammeuses, les gunstagrammeuses, elles aiment leur café du matin, elles le transforment un petit rituel qu'elles prennent en photo comme toutes les Instagrammeuses du monde, sauf que là, bah, c'est pas n'importe quel café, c'est un café qui est fait par une marque de flingue, quoi, par des anciens vétérans, et ça s'appelle la Black Rifle Coffee Company.
Okay, d'accord.
C'est ce genre-là, et c'est une tonalité étrange qui mêle le patriotisme à la sauce texane, hein, les hommages aux héros de guerre et le féminisme, parce qu'il est question de féminisme, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, le féminisme et les armes, alors c'est assez subtil, mais selon elle, eh ben, le droit des armes à feu, c'est aussi le droit des femmes. C'est très flippant, c'est à voir, c'est à aller regarder, vu de notre côté de l'Atlantique, c'est très étrange.
Bon, moi, je vais vous raconter, pour finir, quelque chose de beaucoup plus mignon, de beaucoup plus tranquille. C'est la belle histoire de l'été, je trouve, sur les réseaux. C'est l'histoire d'une dame de 82 ans au Maroc appelée Mama Aïcha qui fait de la poterie artisanale. Et le seul problème, c'est que depuis pas mal d'années, son business de vente de poterie est en chute libre. Son fils Mohamed témoigne d'ailleurs, quand j'étais petit, tout le monde utilisait des ustensiles en terre cuite dans la vie quotidienne et ma mère en vendait au marché, mais aujourd'hui, tout le monde préfère le plastique. Effectivement, le plastique a un peu pris la place de tout. Et aujourd'hui, en fait, tout est relancé grâce notamment à l'association Sumano, je ne sais pas comment on prononce, qui revend les poteries en Europe et propose même des stages avec les potières dans le Rif, puisque c'est une culture artisanale du Rif. Et tout ça a été possible notamment avec Instagram.
Ah, il se passe des choses bien.
Et oui, qui a permis en fait de redonner un véritable élan à tout le business de ces femmes marocaines qui faisaient de la poterie. Et en fait, bah, ça leur a permis d'exporter leur expertise, tout simplement, Instagram. Et il y a maintenant, en fait, depuis qu'elles se sont fait connaître sur Instagram, il y a des gens fans de poterie dans le monde entier qui réservent des stages avec ces femmes dans le Rif parce qu'elles ont un savoir-faire au niveau de la poterie unique au monde. Et il y a notamment une Britannique de 33 ans en stage, du coup, qui témoigne, qui parle d'Instagram, qui dit « C'est un média très utilisé par les potiers. Tout le monde poste des photographies de ses créations, échange des astuces et des conseils. » Et en fait, voilà comment Instagram a permis d'internationaliser l'expertise de ces femmes et de leur retrouver, du coup, des potentiels clients. Et depuis, bah, tout va mieux. Vous pouvez la retrouver, tout cet artisanat, sur la page Instagram de l'association, justement, sumano.co. Voilà. Okay. Vous avez le lien d'un article un petit peu plus long qui vous raconte toute cette histoire.
Voilà, c'était l'histoire coup de cœur de Monsieur Chélie.
Ouais, là, moi ça m'a fait Monsieur Mims.
Voilà les amis, c'était la revue social media de la semaine.
Yes.
On vous donne rendez-vous semaine prochaine.
Ouais, on se retrouve la semaine prochaine tout près de la rentrée des classes.
Voilà, on vous souhaite, eh bien, pour ceux qui sont encore en vacances, des belles vacances. Pour ceux qui reviennent, eh bien, une bonne rentrée.
Des bons bouchons.
Et voilà, des bons bouchons. On pense à vous et on vous dit à très vite.
Allez, ciao. Salut. Ciao.